Alors ce soir, on va réfléchir ensemble sur quelques aspects de l'Église catholique. C'est très important qu'on puisse se pencher sur leur position en général, parce qu'il y a souvent une méconnaissance ou une incompréhension dans nos milieux de ce que croient les catholiques. Et bien souvent, on va tomber sur eux, puis on va penser que finalement ils ont un discours tout à fait chrétien, ça nous convient très bien, et on va pas aller beaucoup plus loin. Comme vous allez le voir, il faut faire des catholiques des disciples. S'ils sont convertis, et s'ils ne le sont pas, il faut les amener devant le message de l'Évangile. C'est ce qu'on va voir ensemble ce soir. Et ce que j'aimerais simplement, c'est qu'on ait un survol des principales doctrines différenciantes ce soir, et on va essayer de voir ensemble comment ces différentes doctrines s'articulent entre elles et pourquoi ça s'oppose à ce que la foi biblique décrit de ce que devrait être la vie chrétienne normale. Vous êtes prêts? On est bon? Alors, première chose. Le terme catholique, finalement, il appartient pas à l'Église catholique. Il revoit au premier temps de l'Église, puisque le mot catholicos, ça veut dire universel, et théoriquement, on est tous dans un certain sens catholiques. Mais, c'est au XVIe siècle, en réaction à la Réforme, que finalement, le terme Église catholique va désigner ceux qui, dans l'Église de Rome, adhèrent à, en fait, l'autorité du pape et celle des évêques et des conciles catholiques romains qui ont précédé la Réforme et contre laquelle la Réforme prétendait s'élever. Donc le terme Église catholique, aujourd'hui, ce qu'on appelle le catholicisme, ça désigne en fait l'Église telle qu'elle a été faite après la Réforme. Et si vous voulez la référence exacte de comment cette Église a été organisée, c'est ce qu'on appelle le Concile de Trente, T-R-E-N-T-E, comme le chiffre, sauf que c'était une ville. Le Concile de Trente est ce qu'on appelle la contre-réforme, en fait. C'est comment les catholiques ont préparé l'après-réforme, après avoir perdu pas mal de leurs membres et de leurs églises. Cette église, elle est dite romaine, parce qu'elle accorde aux papes et aux cardinaux qui siègent, ENT, une faute à Rome, une autorité importante qui est supérieure aux prélats, aux prêtres locaux. D'accord? Tout va bien jusqu'ici? Un petit peu d'histoire, mais juste un tout petit peu d'histoire. Alors, ce sujet, l'histoire des catholiques, il sera nécessairement controversé, tout simplement parce que l'Église catholique elle-même, quand vous lisez leurs livres d'histoire, ils tendent à faire remonter leur historicité et leur autorité à Pierre, l'apôtre Pierre, lui-même. Ce que bien évidemment, nous, on va nier, c'est normal qu'on le nie, c'est pas vrai, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que le dogme, la forme du culte, et la tradition catholique, elle a considérablement évolué au cours des siècles par le moyen de conciles. Conciles, c'est bon pour tout le monde. Ce sont des réunions. Si vous voulez voir ce que c'est qu'un concile, vous regardez le premier grand concile qui a eu lieu, c'était celui de Jérusalem, acte 15. Ce sont les leaders de l'Église qui se réunissent. Ce qu'on appelle un concile catholique ou un concile œcuménique, c'est tous les leaders de l'Église reconnus d'alors qui se réunissent. Et ces conciles ont évolué d'une manière qui a exclu les autres au fur et à mesure. Donc vous avez... En 1054, ce qu'on appelle le schisme d'Orient, les orthodoxes qui se sont séparés des catholiques sur certaines questions. Les orthodoxes sont des gens extraordinaires, n'est-ce pas? Vous en avez deux là-bas, là. Donc le dogme, la forme du culte et la tradition, elle a évolué avec l'établissement de conciles successifs et aussi de controverses. Une grande controverse, c'était la Réforme. À votre avis, c'était quoi la grande controverse de la Réforme? Oui, mais c'était quoi le point de doctrine? La justification par la foi, c'était le gros point de la Réforme en fait, hein, la justification par la foi. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le catholicisme tel que vous le voyez aujourd'hui ne correspond pas nécessairement avec ce qu'il était dans le passé, à la fois dans le fond, la doctrine, mais aussi dans la forme. C'est pas nécessairement ce qui était dans le passé, ce qu'on voit aujourd'hui. Ok? Encore une petite chose. L'Église catholique romaine commence à s'organiser de la manière dont nous la connaissons aujourd'hui, c'est coupé, excusez-moi, mais ça commence à s'organiser avec un pape qui s'appelle Grégoire le Grand, qui était un pape fin du 5e, début du 6e. Grégoire le Grand, Grégoire Ier, c'est lui qui a commencé à organiser l'Église catholique avec son système hiérarchique et son système d'ordonnance tel que nous le connaissons aujourd'hui, c'est lui qui en a posé les bases, d'accord? Alors, globalement, qu'est-ce qui nous différencie d'avec les catholiques? Plein de choses. Déjà, il va y avoir la forme du culte. Mais les points qui me paraissent le plus essentiels de noter aujourd'hui, c'est pas tant la forme que certains aspects de fond qui sont des véritables entraves à la doctrine évangélique de la régénération. C'est pour ça que je voudrais qu'on se concentre dessus ce soir et qu'on regarde ensemble, dans un premier temps, la tradition, Ensuite, nous regarderons ensemble le salut. Puis ensuite, nous regarderons la vie après la mort. Ensuite, nous regarderons ce qu'on appelle l'Eucharistie ou la transsubstantiation. Il y a deux S à transsubstantiation, je vous prie de m'excuser. Et enfin, le culte des saints et le culte marial, qui ne fait pas référence au mariage, mais qui fait référence à Marie. Première chose donc, on va regarder ensemble la tradition. Et qui parle de tradition de l'Église catholique parle de double source de la foi. Mais avant qu'on aille plus loin là-dessus, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que la tradition est une bonne chose? Qui a dit non? Levez la main. Sarah et... J'ai oublié ton prénom, redis-moi. Cécile. Chichi? C'est méchant. Sarah et Cécile.
Est-ce que la tradition est une bonne chose pour les autres?
Qui a dit oui? Éric Chancel? Oui. Alors, pourquoi c'est une bonne chose, pourquoi c'est une mauvaise chose? Ça dépend de quoi? Ça dépend si elle est en accord ou si elle est en contradiction avec le fondement de la foi. Est-ce que les protestants ont des traditions? Par exemple? Prier les yeux fermés, ok, et? Ouais? Plein de choses? La scène, une tradition? La chair? Des fois, on se bagarre avec la chair, hein. Vous savez, c'est vraiment un truc... Spurgeon, il n'aimait pas ça, hein. Ça s'appelle lutter contre la chair. Mais encore, donnez-moi des traditions. Pardon? Oui? Le baptême de nourrissons, une tradition, ça c'est une doctrine alliancielle, hein. Le baptême, ouais, bon, qu'est-ce qu'il y a encore comme tradition chez les protestants? Les quoi? Les Incas chez les protestants. Ah, les agapes avec des nems et tout. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on peut accepter ces traditions-là? Parce que chez les protestants, on adhère à un fonctionnement systématique qu'on appelle sola scriptura. Ça parle à tout le monde? Seule l'écriture. Mais c'est pas seule l'écriture dans le sens de... ouais, la Bible et rien que la Bible et toute la Bible. C'est seule l'écriture un petit peu comme un niveau quand tu regardes si le mur il est droit, tu vois. Tu poses un niveau sur le mur et la bulle elle doit être bien au milieu. C'est ce qui te montre que le mur il est droit. Eh bien, sola scriptura, c'est un petit peu ça, cette manière de se servir de la Bible. La Bible, elle est l'autorité finale par laquelle va être jugée l'autorité de tous les conciles, par laquelle va être jugée l'autorité de toutes tes traditions, toute pensée, toute opinion des pères. C'est pas parce qu'il y a un père qui a écrit quelque chose, un père de l'Église, que c'est juste. Parce que s'il contredit la Bible, c'est faux. Donc, la Bible seule, c'est la Bible comme autorité finale. Donc si t'as une tradition qui consiste à dire que quand tu fais ton culte personnel, tu te grattes le pied, si ça s'oppose pas à la Bible, continue avec ta tradition, c'est ton problème. Mais s'il te plaît, viens pas me serrer la main après. Ok? On continue? Première chose donc, les Écritures constituent la tradition première. C'est-à-dire que déjà, dans le système catholique, vous avez un fondement qui est que les Écritures en elles-mêmes ont une tradition. C'est une tradition, c'est plus réellement l'autorité scripturaire de ce qui sort de la bouche de Dieu, tu vois. C'est vraiment une tradition parmi les autres. Ensuite, la tradition de l'Église vient s'ajouter, mais de manière égale, à la tradition première des Écritures, c'est-à-dire qu'elle a autant de valeur. Et donc, la tradition ecclésiastique, qui est une tradition interprétative, jouit, quand elle est unanime, du privilège de l'infaillibilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, quand tout le monde est d'accord dans les conciles de l'Église catholique, eh ben c'est comme si Dieu avait parlé. C'est showtime. C'est un des gros arguments de Luther, en fait, quand il a pour la première fois exposé ses vues après avoir publié les 95 thèses sur le château de Wittenberg. Alors, vous savez, souvent, on dépeint Luther comme le gars qui était super honnête, qui est arrivé devant les conciles et puis qui était tout tremblant et tout. Mais en fait, Luther, c'était un gros malin. Il a fait ses 95 thèses, c'était contre le purgatoire et contre les indulgences. On va en parler après. Et il était tellement malin qu'il les a publiées le jour de la Toussaint. Vous voyez? Il voulait susciter la controverse et il l'a fait parce que c'était un homme courageux, violent, mais courageux. Il y a été franco et il aurait rentré dedans. C'était Luther, quoi. Concrètement, la tradition ecclésiastique dit que les conciles, quand ils sont exprimés unanimement, sont infaillibles. Donc quand l'Église parle, ça a une valeur d'infaillibilité. Et l'un des gros arguments de Luther, c'était de dire, c'est pas possible qu'il soit infaillible, puisqu'ils se contredisent les uns les autres. C'était un de ses gros arguments. Deuxième chose, les enseignements des pères et des docteurs de l'Église, qui eux aussi, quand ils sont reconnus docteurs, comme par exemple saint Augustin, qui est connu comme docteur de l'Église, et on peut se réjouir, hein, parce que tout à l'heure on regardait avec Raph quelque chose sur la transsubstantiation dont on va parler après, on regardait ce que disait Augustin vite fait rapidement, là on avait une citation d'Augustin, Augustin ne croyait pas à la transsubstantiation. Donc on peut montrer à nos amis catholiques que dans le sacrement de l'Eucharistie, eh ben, leurs propres docteurs ne sont pas d'accord avec eux, ce qui est plutôt intéressant quand même. Troisième chose, ce qu'on appelle le magistère de l'Église. Alors accrochez-vous sur les termes, hein, je vous ai laissé les mots catholiques, les conciles écuméniques, qui n'ont plus d'écuménique que le nom, puisque c'est des conciles entre catholiques. Vous voyez, on n'est pas invité, quoi. On n'est pas dans le truc. Les orthodoxes ne sont pas forcément invités au concile catholique. Mais ils appellent ça un concile écuménique, et aussi les pontifes romains. Qu'est-ce qu'un pontife romain? Le souverain pontife et le pape. Est-ce que vous savez que le pape, quand il prononce certaines bénédictions spécifiques, genre urbi et orbi, ou quand il s'exprime ex cathedra, comme on appelle cela, eh ben le pape, il parle d'une manière infaillible, inspirée, infaillible. Donc s'il dit par exemple, tous les matins quand vous lirez la Bible, vous vous gratterez les pieds, c'est inspiré. Et vous allez tous devoir le faire si vous êtes catholique. Ok ? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que si vous vous opposez à la parole de Dieu, vous vous opposez à Dieu lui-même, mais si vous vous opposez en tant que catholique, au souverain pontife, aux décisions des conciles écuméniques, à la tradition ecclésiastique, ou même à la liturgie catholique, c'est-à-dire la manière dont le culte est ordonnancé, vous êtes en train de vous opposer à ce qu'on appelle la tradition seconde, qui est de même valeur que celle de la Bible, vous êtes juste en train de vous opposer à Dieu lui-même. Dans ce système-là, puisqu'on est là pour en faire la critique un petit peu quand même, hein. Dans ce système-là, on est juste en train de dire que l'Église, elle a pris un rôle qui est équivalent à celui de Dieu. Elle a un pouvoir temporel d'une autorité équivalente à celui de Dieu. Vous vous rendez compte de ce que ça implique? C'est pour ça que j'ai voulu voir ce point en premier avec vous, mais dès le départ, le système de tradition interprétative, il est faussé. On est bon? Vous avez compris tout ce que je vous ai montré? De toute façon, il y aura des temps de questions-réponses après Raph, hein. Si vous avez encore le courage après Raph. Yes? Deuxième chose, parlons de salut. À vrai dire, on aurait pu commencer par ça, parce que s'il y a une chose importante, c'est comment être sauvé. Mais c'est vrai que si on ne comprend pas les Écritures, ça paraît très compliqué d'être sauvé. Donc je l'ai voulu le mettre en deuxième. Déjà, il faut comprendre que la grâce première nous permet d'acquérir, avec un T à la fin d'acquérir normalement, nous permet d'acquérir la justification. Sauf que la justification dans l'Église catholique, c'est pas la même chose que la justification dans la Bible. J'allais dire, c'est pas la même chose que la justification chez les évangéliques, c'est pas la même chose que dans la Bible, tout simplement. Chez les catholiques, cette justification, elle est par grâce, mais elle est infusée. Alors, si je peux me permettre de vous donner une image pour que vous compreniez un petit peu ce que ça veut dire. Prenez une tasse, d'accord ? Avec une anse. Dans cette magnifique tasse, il y a des tasses AECM dans la cuisine, si vous ne les avez pas encore vues, elles sont jaunes, elles sont magnifiques, je vous encourage à les utiliser, vous allez voir, c'est extraordinaire. Vous mettez de l'eau chaude, après l'avoir fait bouillir, vous prenez un petit sachet de tisane, et vous le laissez tremper dedans, et vous regardez ce qui se passe. Vous allez voir que, subtilement et progressivement, l'eau va se teinter d'une certaine couleur, parce que le sachet que vous aurez mis dedans va infuser dans la tasse. C'est grosso modo la vision que les catholiques ont de la justification. Elle est placée en toi, et après elle doit se diffuser, tu vois. Donc c'est pas une fois pour toutes. C'est quelque chose qui doit être prolongé, qui doit être renouvelé, qui doit être... Bref. Rien à voir avec Christ mort une fois pour toutes, pour l'ensemble des croyants de tous les temps, ce qu'on appelle les élus, etc., etc., je vous passe les détails. Christ te donne une grâce qui est infusée, la justification est infusée, et il s'agit pour toi ensuite de l'amener à se développer. C'est pas les termes qui sont employés, je fais exprès de paraphraser pour que vous compreniez bien. Ça implique que derrière, il y a des choses qu'on appelle le mérite, qui doivent être absolument nécessaires au salut. Bien entendu, on croit que les œuvres sont essentielles pour nous-mêmes aussi, mais les œuvres sont la conséquence de la foi par laquelle tu as acquis la justification une fois pour toutes. T'es justifié pour faire des œuvres. Tu ne fais pas des œuvres pour que la justification se diffuse ou infuse. Yes ? On continue. Les sacrements. Les sacrements, eux aussi, font partie de ce processus d'infusion de la justification, avec notamment le baptême, j'en ai relevé deux, qui transmet cette justification. Alors vous avez sept sacrements. Est-ce que vous connaissez les sept sacrements dans l'Église catholique ? Baptême, communion, mariage, confirmation, eucharistie, malade, extrême onction, et... Non, il y en a une septième, j'ai oublié. Tu connais, Hélène ? Non, on m'en parlait des indulgences. Non, non, ça c'est l'extrême onction. Non, Hélène, tu le connais. Tu me l'as cité. À chaque fois, je le cherche, je ne le trouve pas, c'est le même. La prêtrise. Donc celui-là, tout le monde ne l'aura pas. Le fait d'être ordonné prêtre, c'est un sacrement. D'accord ? Dans l'Église orthodoxe comme dans l'Église catholique. Mais le baptême, c'est l'acte initial qui va transmettre la justification. C'est-à-dire que chez les protestants, vous allez avoir deux grandes positions sur le baptême. Ce qu'on appelle le pédobaptisme, baptême des enfants. Ce qu'on appelle le crédobaptisme, baptême des croyants, credo, croyant. Okay ? Pédobaptisme, crédobaptisme. Dans cette église, les responsables et ceux qui ont la charge d'enseigner sont crédobaptistes. Dans mon église, on est crédobaptiste. Raphaël Charrier est crédobaptiste, vous voyez ? Donc, vous êtes entre de bonnes mains. Mais vous avez aussi chez les protestants des pédobaptistes. Pédobaptistes baptisent des enfants. Mais en aucun cas les protestants, la doctrine évangélique ou la doctrine réformée, ne pensent que le baptême confère quelques vertus pour la justification. C'est un symbole, c'est un signe, c'est un sceau qui, dans un certain sens, marque l'entrée dans une alliance de grâce, de relation avec Dieu. Mais en aucun cas, il ne confère quoi que ce soit qui soit en rapport avec la vie spirituelle. Mais, dans l'Église catholique, pour diverses raisons que je ne vais pas détailler, il y a plusieurs positions, on croit à la régénération baptismale. La régénération baptismale. Vous avez ce soir avec nous une grande spécialiste, elle est docteur en régénération baptismale, elle s'appelle Dalia Faltas. Si vous avez des questions sur la régénération baptismale, vous allez la voir, elle est une grande spécialiste, elle a étudié le sujet en détail, et elle pourra vous former sur le sujet, elle est trop forte, d'accord ? Régénération baptismale. En gros, le gros argument, c'est, et vous pouvez tomber sur des catholiques comme ça, c'est, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Il faut naître d'eau et d'esprit pour rentrer dans le royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Quelqu'un qui vous dit, c'est marqué, c'est écrit, que si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Vous lui dites quoi ? Oui, merci Alex Lopez. Alex Lopez, mais non, t'as rien compris. Merci. Mais vous lui dites quoi concrètement de sérieux ?
Du coup, j'avais reçu un argument,
oui.
Qui est que Jésus vient faire un reproche
à une peut-être
son
âme. Oui. Comment ça pourrait être le baptême chrétien, qui est pas encore constitué par Jésus ? Oui. Pas bête. Pas bête. Mais à quoi il fait référence Jésus quand il parle de naître d'eau et d'esprit ? Naître d'esprit, on comprend. Régénération, baptême du Saint-Esprit, qu'on reçoit à la conversion. Mais naître d'eau. C'est une des interprétations, mais qui, personnellement et généralement, aux commentateurs, ne paraît pas adéquate, aux commentateurs évangéliques. Mais c'est une des interprétations, je le reconnais. À votre avis, naître d'eau, Dalia Faltas, t'as pas le droit de parler, t'es docteur en baptême, en régénération baptismale. L'esprit serait symbolisé par l'eau, ouais. Il y a une explication encore, mais vraiment, qui paraît tomber sous le sens. Est-ce que vous avez une Bible devant vous ? Si vous avez une Bible devant vous, ouvrez votre Bible. Et si vous n'avez pas de Bible, asseyez-vous à côté d'un chrétien. Et ouvrez-la dans Jean chapitre 3. John chapter 3. Jean chapitre 3. Comment on dit en chinois ? Je n'arriverai jamais à répéter. Jean chapitre 3. Regardez la progression. Quand Jésus dit la première fois à Nicodème, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Non, il commence par lui dire, il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème lui dit, mais comment est-ce qu'un homme peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? Il comprend pas, vous voyez. Comment cela peut-il se faire, dit-il la deuxième fois. Et Jésus lui dit, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Vous avez vu ? Un premier étonnement de Nicodème, un deuxième étonnement de Nicodème, et quand Jésus lui dit, tu ne peux pas naître d'eau et d'esprit, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu, on dirait que Nicodème, ça lui a cloué le bec. Ça vous étonne pas, ça ? Il est étonné une première fois, étonné une deuxième fois, il comprend rien à la nouvelle naissance. Troisième fois, c'est comme s'il avait compris. C'est comme si l'histoire de l'eau et de l'esprit, ça lui avait cloué le bec. Qui était Nicodème ? Il était un pharisien. Est-ce qu'il était un simple pharisien ? C'était un membre du Sanhédrin, oui, mais encore. Il était un docteur de la loi. C'était un chef des Juifs. Qu'est-ce qu'on attendait d'un gars comme ça ? C'est que ils connaissaient par cœur la Bible, ces gens-là. Ils connaissaient mieux la Bible que vous et moi, tous ensemble, on la connaît. Même Raphaël Charrier ne connaît pas la Bible comme ça, vous vous rendez compte ? Il connaît mieux la Bible que n'importe qui, et pourtant il était aveuglé. Et Jésus lui dit, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Et là, le gars, il se tait. C'est comme si ça avait fait ting, ting. Mais ça veut dire que ça lui parlait particulièrement. Pourquoi ça lui parlait particulièrement ? Parce que M. Callaghan-Moussy a donné la réponse. Il y avait une référence explicite à la naissance d'eau dans Ézéchiel 36. Est-ce que quelqu'un peut lire le passage d'Ézéchiel 36 ? Je crois que c'est à partir du verset 24. Et vous allez avoir l'explication que qu'est-ce que ça a évoqué tout de suite à un pharisien qui, à cette époque, avait une espérance messianique qui était immense. Il n'y avait jamais eu autant d'attentes messianiques qu'au moment où Jésus est apparu sur la terre et qu'il s'est incarné. Est-ce que quelqu'un, si tu l'as, Callaghan, vas-y, lis-le. Ézéchiel
36, à partir du verset
25. Vas-y, verset 25.
Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos
idoles. Continue.
Je vous donnerai un cœur nouveau.
C'est une des occurrences de l'Ancien Testament qui traite de la promesse d'une nouvelle alliance. Dans cette nouvelle alliance, vous avez deux aspects fondamentaux, vous en avez d'autres, hein. Vous avez le fait de recevoir l'Esprit qui va vous faire vivre une vie nouvelle et vous rendre capable d'obéir aux commandements, qui va vous faire connaître Dieu personnellement, mais vous avez aussi la promesse de l'eau qui vous purifiera de vos péchés et de vos souillures. Pour Nicodème, c'est sûr, ça a fait comme ça, ping, nouvelle alliance. Voici la promesse que j'attends avec impatience. Je serai pur, je connaîtrai Dieu et je lui obéirai. Voilà pourquoi il n'a pas cherché à contester ensuite. L'eau et l'esprit dont il est question dans Jean 3 font clairement référence à la nouvelle alliance que Christ a rendue formelle au moyen de son sang. Premier Adam, deuxième Adam. Si vous voulez en savoir plus sur ce merveilleux sujet passionnant, théologie de l'alliance, un jeudi sur deux à Montreuil, vous kifferez. Ok, on continue ? Donc, le baptême, c'est celui qui va transmettre la justification. Mais ensuite, elle va infuser, et notamment, elle va infuser par quelque chose qui va se renouveler messe après messe, c'est-à-dire jour après jour, et ça s'appelle l'Eucharistie. L'Eucharistie, de Eucharistia, en grec, ça signifie action de grâce, c'est ce que nous, on appelle chez nous la Sainte Cène. Sauf que chez nos amis catholiques, orthodoxes et églises traditionnelles assimilées, l'Eucharistie, ça désigne un renouvellement du sacrifice de Christ. Autrement dit, le sacrifice de Christ a lieu une fois pour toutes, à la croix, son sang a coulé, mais pour qu'il soit efficace dans ce processus d'infusion de la grâce première qui consiste en la justification, il faut que régulièrement le communiant prenne le pain et le vin. Et vous savez pourquoi ? Parce que quand le prêtre catholique ou orthodoxe consacre les éléments, le pain et le vin, il se transforme. Eh oui, il se transforme. La substance, transsubstantiation, la substance du pain et la substance du vin se transforment en la substance du corps et la substance du sang de Christ. Pourquoi la substance ? Alors, accrochez-vous bien, hein. C'est Thomas d'Aquin qui a théorisé ce truc-là. La substance, c'est la qualité première du pain et du vin. Par exemple, la substance, c'est ce qui définit le pain et le vin. Mais tu peux changer la substance sans changer, par exemple, des qualités secondes qui seraient le goût. Donc, quand la transsubstantiation se produit, c'est vraiment le corps de Christ mais ça a encore le goût de pain. Parce que ce serait la transubstantiation, il n'y a que la qualité première qui a changé. La qualité seconde, elle est restée la même. Mais la qualité première, elle a changé, c'est normal, le prêtre, il l'a consacré. Et à ce moment-là, quand le communiant s'approche, et qu'il prend le pain et le vin, à ce moment-là précis, il est en train de manger le corps et boire le sang de Christ réellement, de sorte que la grâce première qu'il a reçue va continuer à infuser communion après communion, messe après messe, etc., etc., etc. Donc c'est un renouvellement du sacrifice de Christ, messe après messe. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ce que je viens de dire là? Oui. Exact. Alors, on va y venir, c'est que ça, ce que je viens de vous décrire, c'est en règle générale. Maintenant, chez les catholiques, il y a une spécificité, c'est que depuis, je crois que c'est le XIIIe siècle, mais vous vérifierez, les catholiques, on leur a retiré la coupe. C'est une des grandes choses qui a accéléré la réforme. Parce que avant la réforme, vous avez eu une révolte en République tchèque des Moraves, Jean Hus. Et cette révolte, elle était faite sur le fait qu'on refusait la coupe aux fidèles. Ils avaient commencé à lire la Bible en langue du peuple, et ils se rendaient compte qu'il fallait boire la coupe. Et donc, du coup, ils avaient fait une révolte à ce propos-là. Est-ce que vous m'avez compris sur ce que je viens d'expliquer pour l'Eucharistie? Parce qu'en fait, c'est central. Tout simplement parce que c'est le cœur même du système d'adoration catholique. Toutes les messes sont construites autour de l'Eucharistie. Tout est construit autour du sacrifice de Christ. Et c'est pour ça qu'en fait, nous, on appelle ça un culte et non pas une messe. Parce que le fait même de s'appeler messe désigne le renouvellement du sacrifice de Christ. Un renouvellement qui n'est pas un sacrifice sanglant, mais qui est un sacrifice non sanglant. Alors, question. Qu'est-ce que vous répondez à quelqu'un qui vous raconte un truc pareil? En vous disant, oui, ben oui, si vous mangez pas le corps de Christ et vous buvez pas le sang du Seigneur, bah vous pouvez pas être sauvé, quoi. Qu'est-ce que vous lui répondez? C'est du cannibalisme. C'est du cannibalisme. Est-ce que vous savez quoi? C'est très bien de lui balancer ça. Moi, monsieur, je ne suis pas cannibale. Est-ce que vous pouvez citer un passage dans les Écritures qui dit que tu ne dois pas boire du sang? Et vous en trouverez plein. On peut pas manger et boire le sang des animaux, on peut pas manger la viande avec son sang et on boirait le sang de Christ, mon sauveur. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, monsieur? Vas-y, Clément. C'est ça, oui. Très bien, il se base beaucoup sur Jean 6 où Jésus dit lui-même qu'il est le pain de vie, mais la scène, elle a été instituée après. Très bien. Quoi encore? Qu'est-ce qu'on peut répondre?
C'est symbolique.
Comment on peut le démontrer que c'est symbolique? Très rapidement, en deux mots. Faites ceci en mémoire de moi. C'est un symbole. C'est un symbole. Comment est-ce qu'on peut faire quelque chose en mémoire de quelque chose qui ne s'est pas produit? D'autre part, quand est-ce que la scène elle a été instaurée la première fois? À la Pâque, ouais, par qui? Par Jésus lui-même. Le truc, c'est que quand il a présenté le pain et le vin, comment il pouvait présenter le pain et le vin alors qu'il était encore bien en chair? Il dit, ceci est mon corps et je le romps pour vous, mais il n'est pas encore rompu son corps. Il y a quelque chose qui cloche, là, vous voyez. Autre chose? Dans Hébreux, par exemple. Christ est mort une fois pour toutes. Tout est accompli. Jean 20. Christ est mort une fois pour toutes. Autre argument, le fait que ça soit une offrande non sanglante qui soit renouvelée messe après messe, est-ce qu'on peut être sauvé par une offrande non sanglante? Qu'est-ce que dit la parole? Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés, Hébreux 9, 22, etc., etc. Vous voyez, cette construction eucharistique est absolument contraire à la Bible. C'est comme ça que vous pouvez voir que la tradition peut très vite dériver par rapport à la vérité biblique. Un dernier point sur la transsubstantiation et sur l'Eucharistie. Est-ce que vous savez à partir de quand ça a commencé à être invoqué? Même pas reconnu par l'Église catholique, mais invoqué. La première fois. après Jésus-Christ. Un dénommé Pachas Radber qui a défendu cette position-là et qui n'a pas obtenu un consensus avant 200 ans plus tard, 200 ans après lui, et c'est à ce moment-là seulement qu'on a commencé à parler de transsubstantiation dans les églises. Donc vous voyez que c'est un développement doctrinal tardif et que c'est vraiment un pur produit du catholicisme ou des religions traditionnelles, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'est développé avec ce système interprétatif que vous aviez en premier, à savoir par la tradition. Tout le monde me suit? J'ai perdu personne? On continue? Oui? Parce qu'on appelle la succession apostolique. Je te propose de répondre à ça dans le temps de questions qu'il y aura à la fin. Tu gardes ta question en tête, d'accord? Ensuite, la vie après la mort. Là aussi, vous avez toute son importance, puisque c'est à cause de cela que la réforme a commencé. Déjà, il faut que vous puissiez distinguer, quand on parle de vie après la mort, la notion de péché véniel et de péché mortel. Ne cherchez pas où on peut trouver la distinction entre péché véniel et péché mortel dans la Bible, puisque vous ne trouverez pas de différence entre les péchés dans la Bible, même s'il est vrai qu'il existe de grands péchés, puisque David dit « Pour moi, je suis pur, innocent de grands péchés », donc il y a bien des péchés qui sont plus graves en conséquence que les autres. Par exemple, citez-moi un péché plus grave que les autres. Le blasphème contre le Saint-Esprit. L'impureté sexuelle, selon qu'il est dit. Fuyez l'inconduite. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est en dehors du corps, mais celui qui pêche contre, par inconduite, pêche contre son propre corps. 1 Corinthiens 6, bravo. Mais moi je vous dis qu'il y a un péché plus grand que l'inconduite sexuelle. Le meurtre, encore plus grand que le meurtre. La désobéissance, encore plus grand que la désobéissance. L'incrédulité, justification biblique, Callaghan Moussi, s'il vous plaît. Malheur à vous, Capernaum, malheur à vous, Chorazine, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Sodome et dans Gomorre, ils se seraient repentis à la parole de la prédication. C'est ton texte ? Voleur. Voleur. J'ai bien fait de passer avant, tu vois. Donc, les catholiques distinguent deux types de péchés. Des péchés véniels et des péchés mortels. S'il vous plaît, je ne rentrerai pas dans cette distinction que je ne maîtrise même pas, tellement c'est compliqué. Franchement, vous plongez votre nez là-dedans, vous vous dites, mais c'est quoi ce truc? Honnêtement, hein. Péché véniel, c'est un péché qui peut être racheté par une peine de rémission temporelle. Je m'explique dans deux secondes sur la peine de rémission temporelle. Péché mortel, vous le commettez, c'est mort, tu vas en enfer. Typiquement, dans les péchés mortels, vous avez ce qu'on appelle les sept péchés capitaux. Qui connaît les sept péchés capitaux? Qui connaît les sept péchés capitaux parce qu'ils ont vu un film avec Brad Pitt? Faites attention à ce que vous allez répondre. Dans les sept péchés capitaux, vous avez des péchés qui vont en engendrer d'autres. L'envie, la luxure et toutes ces choses-là. Les péchés véniels, ce sont des péchés qui peuvent être rachetés par des peines de rémission temporelle. Qu'est-ce qu'une peine de rémission temporelle? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le purgatoire. Où est-ce qu'on trouve le purgatoire dans la Bible? Luc 16. Carrière de Moussy, sortez. On ne trouve pas le purgatoire dans la Bible. Luc 16 est la réponse qu'on donne aux gens qui vous disent il y a un purgatoire dans la Bible. Au contraire, vous leur montrez qu'il n'y en a pas avec Luc 16. Il a raison de citer Callaghan. On ne trouve pas le purgatoire dans la Bible. Ça n'existe pas, le purgatoire. Qu'est-ce que c'est le purgatoire dans l'imagerie catholique? C'est un lieu qui est comme une antichambre de paradis ou de l'enfer d'ailleurs. C'est un lieu où on vient racheter ses peines temporelles. Concrètement, Alex Lopez, veux-tu te lever s'il te plaît et venir à côté de moi? Alex Lopez a péché, d'accord? Il a fait un péché véniel, il a mis une chemise bleue, vous êtes d'accord avec moi? Alex Lopez a mis cette chemise de très mauvais goût, et du coup, il a commis un péché véniel. Alex Lopez meurt. Alex Lopez meurt. Il est envoyé au purgatoire. Et au purgatoire, sa peine temporelle est fixée à 450 ans. Je dis une bêtise, hein. Je fais exprès de dire des bêtises. Elle est fixée à 450 ans. Je crois que ta chemise a fait fureur là-bas. Elle est fixée à 450 ans pour le rachat de ses péchés, 450 ans de souffrance. Et oui, parce que vous rachetez vos peines temporelles par la souffrance. Vous achevez dans votre corps ce qui manque aux souffrances de Christ. Vous comprenez la notion sous-jacente? C'est que le sacrifice de Christ n'est pas entièrement efficace. C'est une mauvaise interprétation d'un verset qui se trouve dans Colossiens. Colossiens, oui, c'est ça, Colossiens 1, Colossiens 2. C'est une mauvaise interprétation qui se trouve dans, d'un verset qui se trouve dans Colossiens, qui permet de dire que, à cause de sa chemise, Alex Lopez va passer 450 ans à souffrir pour des péchés véniels qu'il aurait commis. Tu peux te rasseoir, c'était juste pour t'afficher. Ok? Donc, cette notion de péché véniel vous conduit naturellement à une notion de purgatoire dans lequel vous allez souffrir avant de rentrer au paradis pour finir d'achever la purification, ce qui manque aux souffrances de Christ. Mais c'est là qu'intervient une subtilité. Parce que sur la terre, le pape, le souverain pontife, et ça existe encore aujourd'hui, il a le pouvoir de vous racheter des peines temporelles. Autrement dit, le pape, s'il veut, tous ceux qui sont au purgatoire, il peut les faire sortir. C'est ce qu'on appelle des indulgences. Les indulgences sont quelque chose qui est une rémission des peines temporelles des individus. Vous pouvez récupérer les indulgences pour vous-même, typiquement avoir une indulgence qui va vous faire sortir du purgatoire, vous, qui va vous éviter des années de purgatoire, alors pas tout, hein, mais vous pouvez aussi faire ça, récupérer une indulgence pour vos proches. Là où ça devient corsé, c'est que ces indulgences sont payantes. En tout cas, elles le furent. Aujourd'hui, elles le sont moins. Elles furent payantes, à tel point qu'à un moment donné, les indulgences elles se sont démocratisées. Vous savez pourquoi elles se sont démocratisées ? Parce qu'il fallait qu'ils fassent construire Saint-Pierre de Rome. Vous avez vu la belle cathédrale que je vous ai montrée lors du premier slide ? Elle était en pleine construction, alors que le pouvoir temporel de l'Église battait son plein. Et vous aviez des gens qui sillonnaient l'Allemagne et la France, notamment un dénommé Tetzel, qui disait « Dès qu'une pièce tombe dans l'obol, une âme du purgatoire s'envole. » Et Martin Luther, il a entendu ça, la moutarde elle lui est montée au nez, et il a écrit un traité qui s'appelle les 95 thèses, que j'ai mis à disposition en français moderne sur mon blog, que vous pouvez lire, et je vous encourage à le lire. Il a des arguments tout simples, des trucs tout simples du style « Si le pape a le pouvoir des rémissions des peines temporelles, pourquoi il ne l'accorde pas à tout le monde ?» Vous voyez ? Par conséquent, à l'époque, les indulgences ont suscité un mouvement de protestation énorme, sous la plume de Luther, mais aussi de Zwingli, qui l'a probablement précédé d'ailleurs, vers Zwingli en Suisse, de sorte que le purgatoire, et c'est la doctrine des péchés véniels, ont été en quelque sorte les précurseurs de la réforme et de la redécouverte du christianisme biblique. Yes ? Maintenant, est-ce que les indulgences existent encore selon vous ? Comment ça marche les indulgences ? Twitter ? Tu peux t'expliquer ? Tout à fait. Lors de l'indulgence, lorsque le pape Francis, pape François, a ouvert son compte Twitter, il a été proclamé pour une durée de quelques semaines que ceux qui deviendraient ses amis sur Twitter, qui deviendraient ses followers, ils allaient hériter d'une indulgence, mais attention, écoutez bien, une indulgence plénière. C'est-à-dire que toute leur peine temporelle allait être annulée du jour au lendemain juste parce qu'ils suivent un mec sur Twitter. Ça vaut le coup, hein ? Il y en a d'autres qui se sont plantés, ils ont préféré suivre Michel Pfeiffer ou un acteur connu, ils n'ont pas eu d'indulgence, les pauvres. Mais en suivant le pape, ils ont eu une indulgence plénière. Je vais vous dire comment ça s'appelle, ce genre de choses-là. Ça s'appelle de l'idolâtrie. Ok ? On se parle franchement ce soir, c'est de l'idolâtrie. C'est pas fini. Ils ont eu une indulgence plénière, mais après, ils pouvaient repêcher. Et donc, de nouveau avoir besoin d'indulgence pour esquiver ces peines temporelles. Autre chose, les JMJ. Quand vous allez aux Journées Mondiales de la Jeunesse, qui vous était aujourd'hui, la dernière édition qui s'est produite, c'était sur la plage de Copacabana. Il y avait plus de 3 millions de personnes qui étaient présentes sur cette plage. On dit que c'est le plus grand rassemblement humain de toute l'humanité qui a eu lieu là-bas. 3 millions de personnes sur la plage de Copacabana. Tous ces braves gens ont hérité d'une indulgence plénière. Facile de mobiliser les foules quand on a un tel pouvoir, n'est-ce pas ? C'est clair pour tout le monde, je continue ? Allez, on s'arrête un peu sur l'Eucharistie, qui est un sujet brûlant. Demain ou après-demain, vous aurez un article assez conséquent qui va paraître sur mon blog, qui s'appelle Le Bon Combat. Je vous encourage à aller jeter un œil, qui globalement vous donnera 5 bonnes raisons pour lesquelles moi je ne peux pas croire personnellement à l'Eucharistie, et qui vous donnera des arguments clés par rapport à cela. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour les catholiques, quand Jésus-Christ institue la scène, c'est lui-même, substantiellement, qu'il offre au travers des éléments. Autrement dit, quand Christ il fait la scène, c'est écrit dans le catéchisme, hein, je ne vous mens pas. Quand Christ il institue la scène, il est en train de s'offrir lui-même. Prenez ceci est mon corps, le corps par lequel je vous donne mon corps. Ok ? Ensuite, lors de l'Eucharistie, donc au moment où on passe la scène, au moment où le prêtre il va consacrer, l'offrande, une fois qu'elle est consacrée, elle se transforme, elle devient réellement le corps et le sang de Christ, et à ce moment-là, on parle de présence réelle. Alors, chez les protestants, il y a deux grandes écoles. Il y a l'école purement symbolique, qui consiste à dire c'est juste un symbole qui montre une réalité passée. Et vous avez une deuxième école qui est la présence mystique. La présence mystique, c'est de dire, bah, en fait, on est unis mystiquement à Jésus. On est dès de nouveau, on est unis spirituellement avant d'être réunis corporellement avec lui. Ça veut dire que quand on prend la Sainte Cène, il y a ce qu'on appelle en quelque sorte une grâce spéciale. C'est un moment où on se souvient spécifiquement de Christ, c'est un moment où il est particulièrement présent, c'est un moment qui est un moyen de la grâce pour nous amener à nous repentir, pour nous amener à croître dans la sanctification. Personnellement, moi, je suis de cette deuxième école. Je suis ce qu'on appelle un réformé. Mais vous avez d'autres écoles qui sont purement symboliques. Moi, j'ai vraiment du mal avec cette approche parce qu'on a tendance à considérer le symbole sous une forme un peu plus relaxe. Et j'aime pas trop la notion d'être relax avec le symbole, parce que si vous êtes relax avec le symbole, vous finirez par être relax avec la chose symbolisée. Pour moi, c'est important de se souvenir que Christ est présent spécifiquement et particulièrement à la scène, mais il n'est pas présent corporellement et réellement, comme le disent les catholiques. Ensuite, à chaque messe, le sacrifice est renouvelé d'une manière non sanglante. Je m'arrête pas là-dessus. Je pense qu'on en a suffisamment parlé tout à l'heure. À part s'il y a encore des choses à dire. De toute façon, on aura le temps de questions après. Ensuite, encore un élément très important. Le culte des saints. Le culte des saints, c'est quelque chose d'assez spécifique à l'Église catholique. En effet, on n'a pas de statut ici, à part peut-être un dessin avec le truc de l'AECM. Je ne sais pas si vous rendez un culte aux éléments de l'AECM, je n'espère pas dans cette Église. Mais au niveau du culte des saints, vous avez déjà cette première notion qui est la notion de communion entre l'Église céleste et l'Église terrestre. Cette notion de communion entre l'Église terrestre et l'Église céleste. C'est pas absolument faux, mais c'est là que ça devient subtil. Parce qu'il est question de s'approcher, dans un certain sens, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13. Dans un sens, il y a une certaine communion entre nous, qui sommes l'Église visible. Je parle pas d'Église locale, hein, je parle d'Église visible, celle qu'on voit dans ce monde, et l'Église universelle, celle qui est réunie avec Dieu dans le ciel, l'Église invisible, quoi, en quelque sorte. Donc il y a une communion, mais ça ne veut pas dire qu'on est en relation avec les chrétiens qui sont décédés, et qui sont dans le ciel. Qu'il n'y ait parmi toi personne qui évoque les morts. Les gens qui sont morts, ils sont morts. Et si t'es mort sans Christ, c'est mort. Ensuite, il y a la notion de saint. Alors, qu'est-ce que c'est un saint dans la Bible ? Vas-y. Quelqu'un de justifié par la grâce, par le moyen de la foi, tout à fait. Donc c'est qui ? C'est toi, c'est moi, c'est tous ceux qui sont nés de nouveau dans cette salle ce soir. Vous êtes des saints. À tous ceux qui sont à Corinthe, saints par vocation. Vous avez été appelés à être saints. Tous étaient appelés à être saints. Regardez toutes les lettres, vous êtes tous appelés à être saints. Vous êtes des saints. Les saints qui sont en Galatie, les saints qui sont dans la Judée, les saints, ceux qui sont sanctifiés. Il a amené à la perfection une fois pour toutes ceux qui sont ainsi sanctifiés, nous dit l'Épître aux Hébreux. Donc un saint, c'est un chrétien. Mais dans l'Église catholique, un saint, c'est pas ça. Un saint, c'est quelqu'un qui est passé par un processus qui a d'abord eu comme point de départ ce qu'on appelle sa béatification. Alors, je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais en gros, vous avez un processus qui dit chrétien, de chrétien tu passes à béatifié, de béatifié tu passes à sanctifié. Comment est-ce qu'on fait pour être sanctifié dans l'Église catholique ? Eh bien, il faut un vote d'un concile, une réunion de cardinaux et du pape, une décision d'un concile, mais surtout, il faut avoir certains points de passage attestés, notamment le fait d'avoir fait des miracles. Ça passe par un certain nombre d'années. Vous ne pouvez pas devenir saint comme ça. Quand le pape Jean-Paul II est mort, c'était un pape qui était très estimé dans les milieux catholiques. Vous aviez des pancartes sur la place Saint-Pierre de Rome de gens qui avaient marqué « Santo subito ». Ça veut dire « Faites-le saint tout de suite ». Mais ça, l'Église catholique ne pouvait pas le faire. Puisqu'il fallait passer par un processus, il fallait déjà prouver que le pape Jean-Paul II avait fait un miracle. Et cette preuve, elle est arrivée seulement 3 ans ou 4 ans après, je crois, si ma mémoire est bonne, d'une dame qui a dit « Oui, oui, mais au fait, il avait fait un miracle à l'époque ». Donc, en gros et concrètement, vous ne pouvez être saint dans l'Église catholique que si vous êtes reconnu par l'Église catholique comme saint. C'est pas Dieu qui décide qui est saint de qui ne l'est pas. C'est l'Église qui décide qui est saint de qui ne l'est pas. Enfin, il faut aussi comprendre une autre différence terminologique de termes. C'est la différence qu'il y a entre adoration et vénération. Quand vous voyez des catholiques se prosterner devant des statues, vous pouvez vous dire c'est de l'idolâtrie. Mais non, ils ne sont pas en train d'adorer la statue. Ils sont en train de la vénérer. C'est différent. Je m'explique. Alex Lopez, tu peux revenir ici, s'il te plaît ? Prenons comme exemple Alex Lopez. Alex Lopez est une statue avec une magnifique chemise, d'accord ? Il est à côté de moi, comme cela, ok ? Admettons que j'arrive devant Alex Lopez et que je me prosterne devant lui. C'est mal. Si je me suis prosterné devant lui dans un signe de respect, c'est de la vénération. C'est-à-dire que cette statue d'Alex Lopez, qui était un éminent saint qui est dans les cieux, je l'ai vénéré. J'ai juste respecté, pas plus, hein. Mais si par contre je me suis prosterné devant lui en disant « Oh Alex Lopez, mon Dieu !» Là, je l'ai adoré. La deuxième est un péché pour les catholiques. Le premier ne l'est pas. Sauf que dans les faits, tu peux te rasseoir. Sauf que dans les faits, vous avez des gens qui font des kilomètres et des kilomètres et des milliers de kilomètres juste pour aller vénérer une relique d'un saint qui se trouve à, par exemple, Saint-Jacques de Compostelle, où on prétend qu'il y aurait le crâne de Saint-Jacques. Vous voyez ? On commence donc par vénérer les saints qui sont dans le ciel, on se prosterne devant les statues qu'ils y représentent, on fait de l'adoration aux morts, etc., etc. Qu'est-ce que vous répondez à quelqu'un qui fait ce genre de choses, mis à part les passages du Lévitique sur l'adoration des morts ? Ouais. Il l'a refusé par respect de s'agenouiller. Alors, c'est pas bête, mais ça a une limite. C'est qu'ils pourront te montrer que Jacob, il s'est incliné devant Pharaon. Oui, mais alors attendez, je suis un catholique lambda là, ok ? Vous venez de me dire, ouais, Mardoché, il a refusé de s'incliner devant comment il s'appelle ? Aman, la Gagite. Il a refusé de s'incliner devant Aman. Et là, le catholique te répond, oui, mais regarde, Jacob, il s'est bien incliné devant Pharaon. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Bah, moi aussi, hein, quand je me mets devant des statues, c'est avec reconnaissance. Bah oui, mais je sais, mais la parole, c'est faut pas la comprendre comme ça. Regarde, Jacob, il s'est bien incliné, lui. Il s'est bien incliné, donc ça veut dire que lui qui était le père de Moïse, il devait savoir tout ça, non ? Il était vivant, ouais, mais quand même, il s'était devant Pharaon, hein, il s'est incliné devant lui, donc on peut le faire. Si lui, il l'a fait, on peut le faire. Allez, il y a un argument dans le texte. Qu'est-ce qu'il a fait, Jacob, à Pharaon ? Il l'a quoi ? Non, il l'a pas volé, non. Jacob était un pickpocket. Qu'est-ce qu'il a fait, Jacob, à Pharaon ? Il est ouf. Hein ? Il l'a quoi ? Il l'a béni. Jacob a béni Pharaon, et qu'est-ce qu'on entend dans l'épître aux Hébreux à propos de la bénédiction ? Et sans contredit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Quoi donc ? Serait-il possible qu'en apparence, Jacob ait juste fléchi le genou par un signe de reconnaissance et qu'ensuite, il ait béni Pharaon, ce qui prouverait son absolue supériorité devant lui ? Pensez-vous vraiment, monsieur, qu'il se soit prosterné ou juste qu'il lui ait dit bonjour ? Vous voyez ? Jamais dans la Bible, vous n'avez un signe de vénération. Vous n'avez que des signes d'adoration et ces signes d'adoration montent vers Dieu. Certainement pas vers qui que ce soit, vivant ou mort. On aura le temps pour les questions après, je vais laisser la place à Raph ensuite. Enfin, vous avez la simonie et la relique des saints. La simonie, c'est le culte des reliques. Ça n'a rien à voir avec Simone, qui est la grand-mère de Callaghan. La simonie est la culte des reliques. Alors, des reliques, vous en avez partout. Jean Calvin a écrit un magnifique traité des reliques, qui est extraordinaire. Il te montre que des reliques, par exemple du bois de la croix, il y en a plus de 450 dans le monde entier de son temps. Il te montre que des dents de Saint-Jacques ou je sais plus quoi, t'en retrouves un peu partout. Bref, les mêmes reliques, tu les retrouves à droite, à gauche. Et il conclut son traité en disant que tout est si confus qu'on ne sait pas si on se prosterne devant les os d'un chien, d'un chat ou d'un homme. Vous voyez ? Concrètement, le culte, j'ai pas besoin de vous démontrer que c'est une abomination de se prosterner devant des objets qui auraient appartenu à un saint. Même pire que ça, certains disent qu'on a des reliques des anges. Paraît-il que je sais plus où en France, on aurait des reliques de Saint-Michel. on aurait des reliques de Saint-Michel, et donc les gens se prosterneraient devant soi-disant des reliques de Saint-Michel. Alors vous vous dites, c'est abusé. C'est des trucs, c'est fini, c'est passé, ça n'existe plus. Détrompez-vous. Dans toutes les églises catholiques, sous l'autel, vous avez une relique d'un saint. Parce que si vous n'avez pas la relique d'un saint sous l'autel, la messe n'est pas valide. La simonie, chers amis, continue, quoique cachée. Toutes ces choses que la réforme a dénoncées n'ont jamais cessé. Le Concile de Trente les a confirmées et justifiées. Ok ?
Je ne sais pas si c'est vrai, mais on va notre dame, par exemple, pour les touristes qui embrassent les poignets, les portiers
ouais.
de la cathédrale.
Oui. Oui, bien sûr. Mais vous avez une grande dimension d'idolâtrie un peu partout. Moi, j'ai été à un enterrement, on avait chez les Égyptiens, il y a une dame qui était décédée, une dame libanaise d'ailleurs. Non, égyptienne, pardon, la mère de Hassad. La mère de Hassad, elle était décédée, et ils m'ont demandé de venir prêcher. C'était dans une église catho, vous aviez Steve Barnes et moi. Pour ceux qui connaissent pas Steve Barnes, c'est un baptiste indépendant américain bien carré, tu vois, et moi. Et ensuite, vous aviez le prêtre catholique et vous aviez les prêtres orthodoxes qui étaient là. Il y avait Abouna Ephraim qui était là et Moussa du 95 là. Et le père Moussa. Et ils sont venus donc. Et tous les gens, ils arrivaient autour des prêtres coptes, ils prenaient leurs mains, ça me choquait. Hein. Ils ont pris leurs mains, ils leur faisaient des bisous sur les mains. Mais qu'est-ce qu'ils font, tu vois? Et en fait, quand j'ai demandé à Dalia de m'expliquer, elle m'a dit, c'est parce qu'en fait, comme ils touchent la scène et l'Eucharistie, ses mains, elles sont saintes. C'est ça, en fait, hein, je dis pas de bêtises. Et donc, ils viennent tous embrasser la main du prêtre dans un signe de... Mais c'est impressionnant, quoi. Vous imaginez, je sors du culte, ou Raphaël sort du culte parce qu'on est pasteur, et tout le monde se met à nous embrasser les mains. Moi, je serais super gêné, sérieusement. Hein. Et cette dimension, vous la retrouvez beaucoup... C'est un peu traditionnaliste, tu vois. Le prêtre, il a un pouvoir temporel qui lui est conféré, et même cela, ça tend à communiquer une idolâtrie. Et même, avant de conclure, regardez... C'est Dieu qui communique les grâces. C'est Dieu qui vous a communiqué la vie. L'esprit souffle où il veut, tu n'entends pas le bruit. Il fait ce qu'il veut, l'esprit. Ça dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Mais quand tu commences à dire que c'est l'Église, par son pouvoir temporel, qui communique la grâce, c'est deux choses. C'est du blasphème. Et c'est de l'idolâtrie. Naturellement, tu vas tomber dans ce cercle infernal qui va te conduire à idolâtrer des hommes plutôt que Dieu, idolâtrer la créature plutôt que le créateur. Alors, conclusion, et on aura des temps de questions tout à l'heure. Finalement, le catholicisme, c'est une religion qui est grandement appuyée sur sa propre tradition. Et certaines de ces doctrines constituent de véritables obstacles à la régénération. Quelqu'un qui croit vraiment au système de salut avec la grâce qui est infusée, la justification qui est infusée et le fait qu'ils doivent prendre le pain à chaque messe pour pouvoir être purifié, mais c'est quelque chose de hard, quoi. Vous savez, chez nos amis orthodoxes, il y en a certains qui n'en prennent plus. Il y en a parmi eux qui se sont convertis, ils veulent plus prendre la communion. Mais vous imaginez pour leur famille ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils se privent du moyen de salut. Et ils se mangent une pression de malade pour continuer à prendre la communion, alors que eux ne veulent plus forcément la prendre. Et ensuite, la doctrine de l'Église catholique ne peut pas faire de ceux qui s'y soumettent des disciples. Et ce sera mon point de conclusion, en fait, avant de juste vous dire que, par conséquent, il est normal de chercher à faire des catholiques autour de nous des disciples. C'est là que je voudrais conclure. Malgré tout ce qu'on a dit, et malgré le fait que l'Église catholique soit remplie de fausses doctrines, est-ce qu'il est possible que les catholiques autour de nous soient des chrétiens nés de nouveau? La réponse est oui. Parce que c'est pas la doctrine qui te sauve. Tu peux avoir toute la meilleure doctrine du monde et ne pas être sauvé. C'est pas être évangélique qui te sauve. Tu peux être un bon évangélique, membre d'une église évangélique, baptisé adulte, et ne pas être régénéré, et ne pas être sauvé. Ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Autrement, ils ne seraient pas sortis, dit l'apôtre Jean. Ils avaient été baptisés, ces gens-là. Donc, par conséquent, c'est pas une doctrine qui sauve. Et il est possible que parmi les catholiques, parmi les orthodoxes, parmi les... Vous ayez des personnes nées de nouveau. J'en connais personnellement. J'en connais plein. Mais nous ne sommes pas appelés à faire des gens sauvés. Nous ne sommes pas appelés à faire des gens qui prennent des décisions et qui lèvent la main dans une réunion puis qui retournent d'où ils sont venus. Nous sommes appelés à faire des disciples. Or, n'importe lequel d'entre vous ici qui s'est converti a été associé à un programme de discipulat. On l'a mis la main à la charrue pour qu'il puisse avancer avec le Seigneur et grandir avec lui. quelqu'un qui est dans l'église catholique ou dans l'église orthodoxe ou n'importe où, qui est né de nouveau dans ce style d'église-là, va grandir avec cette doctrine-là. Vous devez l'enseigner. Vous devez faire de lui un disciple. Vous devez faire du one-to-one avec lui. Il ne faut pas aller le voir en lui disant « Bah, ta doctrine, elle est pourrie !» Même si c'est vrai. Faites-en un disciple. Enseignez-le. Parlez-lui de l'Évangile. Parlez-lui de Jésus. Montrez-lui ce que disent les Écritures sur la vérité de l'Évangile. Parce que tout le système, au moins les choses que je vous ai montrées là, entrave sa croissance et sa vie en Christ. Et si vous voulez en faire un chrétien victorieux pour le royaume, un chrétien qui prend part à la grande mission à laquelle nous avons tous été appelés, comme on le rappelait ce matin, faites-en un disciple. Enseignez-le et vous verrez qu'il ne pourra pas continuer de la même manière qu'il le faisait auparavant. Ok ? On aura un temps de questions tout à l'heure, mais je passe maintenant la parole à Raphaël, parce que j'ai déjà beaucoup parlé.